Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Académie pour cette nouvelle émission d'éclairage. Je vous propose aujourd'hui de partir à la découverte de ces hommes en rouge que sont les cardinaux de l'Église catholique. Peu connus, souvent décrits comme des hommes de pouvoir mais secrets, parfois même comme des hommes en décalage avec la réalité contemporaine, eh bien ces robes rouges, comme les appelle la journaliste Caroline Pigozzi, sont, comme vous allez le voir, bel et bien entrés dans le troisième millénaire. Ces cardinalis sancte romanae ecclesiae, tel est leur titre officiel, cardinal de la Sainte Église romaine, sont au nombre de 185 aujourd'hui, et parmi eux, 112 sont électeurs, les autres ayant atteint la limite d'âge des 80 ans. Ils forment tous le Sacré Collège pour assister le pape dans le gouvernement de l'Église. Ils se réunissent régulièrement en consistoire ordinaire ou extraordinaire. Bref, vous l'aurez compris, il s'agit de la plus haute sphère de l'Église romaine. Et pour nous la présenter, je suis très heureux de recevoir au micro de Canal Académie, et ceci pour la première fois, Caroline Pigozzi. Caroline Pigozzi, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je sais que vous êtes très prise. D'origine italienne, vous avez effectué vos études au sein de l'Institut San Domenico de Rome, ceci expliquant peut-être cela. Vous avez étudié le journalisme à la New York University. Vous avez commencé par travailler au Figaro Magazine. Vous êtes actuellement grand reporter pour Paris Match, pour lequel vous êtes spécialisé dans les questions religieuses. Alors, nos auditeurs vous connaissent peut-être déjà pour vos articles à Paris Match, mais aussi et sûrement pour votre ouvrage Jean-Paul II intime. Dès 1996, vous avez été l'une des rares journalistes à vous entretenir à plusieurs reprises avec le prédécesseur de Benoît XVI, donc Jean-Paul II. En 2005 paraît donc ce Jean-Paul II intime aux éditions Robert Laffont, un ouvrage aujourd'hui traduit en 8 langues dans 10 pays. Et pour cet ouvrage, vous avez reçu la médaille de Vermeil de l'Académie française. Et vous venez donc de publier...
Entre-temps, j'ai publié un autre livre.
Alors, vous avez publié un autre livre,
Ambassadeurs de Dieu.
Chez Desclées de Brouwer.
Chez Desclées de Brouwer, oui.
Et donc, une coédition Desclées de Brouwer plomb aujourd'hui sur les robes rouges. Donc, les robes rouges qui sont tout simplement les cardinaux de l'Église catholique. Alors, je rentre dans le vif du sujet, Caroline Pigozzi. Les premières lignes de votre ouvrage expliquent comment vous est venue l'idée de ce livre. La scène se passe en été, en 2007, place Saint-Pierre, et vous voyez deux cardinaux passer près de vous, le téléphone mobile à l'oreille. Et cette modernité vous frappe. Vous écrivez que ces princes de l'Église étaient maintenant entrés dans le troisième millénaire. Est-ce à dire, Caroline Pigozzi, que quand on est à Rome, comme vous l'êtes à de nombreuses reprises, on voit d'abord une Église inscrite dans l'histoire et le passé. On a du mal à voir une Église inscrite dans la modernité. Comment expliquer cela ?
Non, on voit les deux. C'est-à-dire, justement, moi, ce jour-là, j'ai une vision. C'est-à-dire qu'il y a la solennité, il y a la beauté des lieux, il y a la tradition romaine, il y a tout ce qui se passe dans cette ville. Une ville, en fait, les gens n'imaginent pas venir à Rome sans aller place Saint-Pierre. Ça fait partie de l'ADN de la ville, la place Saint-Pierre. Et puis, il y a des cardinaux qui, même vêtus de rouge, sont assez modernes. D'ailleurs, les deux cardinaux que j'avais vus, il y en avait un qui avait deux portables. Il en avait un à l'oreille et l'autre dans la main. Je me demandais comment il allait pouvoir faire si le deuxième sonnait. C'est une image qui m'a tellement amusée que là, j'ai eu un flash. Je me suis dit, il faut écrire un livre de plus.
Le Vatican reste inscrit dans cette modernité parce que je crois que ça a été un des premiers États à avoir un site Internet digne de ce nom.
Et il est très bien, leur site Internet. Il est très sophistiqué, très à jour et c'est plutôt un élément, je dirais, il est largement aussi bien que le site de l'Élysée et que de plusieurs ministères.
Alors, avant de commencer cette émission, nous discutions ensemble et vous me disiez que vous aviez travaillé dans le monde politique. il est assez facile d'approcher le monde politique puisque les hommes politiques sont demandeurs. En revanche, approcher les cardinaux, c'est une autre paire de manches, si vous me permettez cette expression.
Oui, parce que les cardinaux, en dehors de, ils sont arrivés au sommet de leur carrière, si je puis m'exprimer ainsi, parce que bon, en dehors de devenir pape, il ne reste pas grand-chose à attendre sur le plan de la carrière. Par ailleurs, ils ne se font pas élire, enfin, sauf pour devenir pape, le poste suprême. Mais en plus, ce sont des gens dans la tradition secret, méfiants, discrets. Donc, ils ne sont pas du tout à la recherche d'interviews. Et à savoir, quand ils voient des journées Espace Saint-Pierre, ils accélèrent la marche et ils vont droit vers la porte de bronze. C'est très compliqué de les interviewer. Ce n'est pas leur destin premier, non ? On ne peut pas dire qu'ils recherchent l'interview à tout prix.
Mais pourtant, vous, j'allais dire, vous avez une tradition, si je puis m'exprimer ainsi, puisque vous, ça fait très longtemps que vous êtes journaliste, spécialisé sur les questions religieuses. Et surtout, il y a eu ce Jean-Paul II intime. Est-ce que c'est d'une chose qui a pu vous aider ?
Ah oui, mais bon, il y a deux choses qui m'ont aidée. Il y a la formation Paris Match, ce que j'avais appris de Roger Théron, qui était notre patron, qui est décédé il y a 9 ans maintenant, et qui était un homme qui considérait qu'il fallait faire des scoops. Ça n'existait pas pour lui de ne pas faire de scoops. Donc moi, j'ai toujours l'approche du scoop dans le ventre. C'est-à-dire que je vois quelque chose, je me dis quel est l'angle qui pourrait donner un scoop. Vous voyez, ce n'est pas juste écrire les choses convenues, les choses évidentes. Parler d'un film quand il sort, ce n'est pas intéressant. Il faut trouver un angle, il faut trouver une idée, il faut creuser un peu plus que cela. Bon, alors vous me demandez si effectivement j'ai été aidée parce que j'avais fait un livre sur le pape Jean-Paul II. Si vous voulez, il y a plein d'éléments, il y a une espèce de convergence. J'avais fait un livre, certes, 2 livres même sur le pape Jean-Paul II, le pape en privé et Jean-Paul II intime. Ce que j'ai fait, parce qu'il y a eu beaucoup de livres sur le pape Jean-Paul II, il y a eu quelques centaines, c'est que là aussi j'avais trouvé un angle, je crois, montrer qu'on pouvait donner, personnaliser, humaniser même des très très grands personnages. Quand j'ai écrit mon premier livre, je me suis dit, une journaliste inconnue qui parle d'un sujet inconnu, ça n'a aucune chance de marcher. Donc si je suis inconnue, il faut au moins que je parle d'un sujet connu, mais il faut maintenant trouver une idée, une accroche. Et l'accroche, c'était d'en faire un personnage avec lequel on vit et qu'on voit vivre. Très à la Paris Match, d'ailleurs, je dois dire que ça, j'ai une certaine fierté, c'est pas modeste de le dire, mais j'ai été très copiée depuis maintenant, en fait, du intime partout. C'est vraiment l'estampille Paris Match. Et la mayonnaise Roger Théron, Caroline Pigozzi, on a vraiment fait ça ensemble, c'était vraiment son idée, ça a été, voilà, les bonnes idées, elles sont copiées, c'est plutôt un honneur d'ailleurs, il ne faut pas s'en désoler, mais c'est une réalité. Alors là, pour atteindre les cardinaux, il y a eu plusieurs éléments, il y a le fait que j'avais écrit donc, ces 2 ouvrages qui ont été traduits en 2 multiples langues, et il y a le fait que j'avais sorti mon précédent livre « Ambassadeur de Dieu » chez Desclée de Brouwer, qui se trouve être un des éditeurs du pape. Donc, aux yeux des cardinaux, ça donnait évidemment forcément la garantie que j'étais quelqu'un de sérieux, parce que c'était un éditeur quand même un peu austère. Et quand on publie chez Desclée, pour des gens méfiants et comme les cardinaux, c'est une Desclée pour entrer dans leur monde, je dirais.
Alors, première clé que vous utilisez, il y a une deuxième clé. Il s'agit de tenter de découvrir le langage exact de ces cardinaux qui entourent toujours leurs paroles, qui peuvent avoir non pas un double langage, mais il faut savoir lire entre les lignes.
Eh oui, ça, ils ont vraiment un double langage. C'est-à-dire que je n'ai pas été correspondante à Moscou, certes, mais vous voyez, d'entrer dans l'univers des cardinaux, il faut comprendre que souvent, ce qui est important, c'est ce qu'ils ne disent pas. Donc, il faut chercher. Au départ, ils ont un langage très convenu. Ils vous disent des choses. Donc, il faut comprendre. Il faut décoder. Il faut regarder, les regarder. Il faut voir si leurs mains bougent. Enfin, il y a toute une étude psychologique. Il faut entrer dans leur univers. Et l'univers de chacun est différent. Il y a 20 cardinaux, 20 univers. C'est pas, tout ça n'est pas un bloc compact. Et donc, il y a toute une approche psychologique, il y a une relation de confiance qui doit se tisser, qui doit se nouer. Autrement, on n'arrive à rien. Enfin, par un livre comme ça, s'il n'y a pas beaucoup d'aisance, beaucoup de calme, beaucoup de sérénité, parce que je reviens à cette question essentielle, ce sont des gens extrêmement prudents, parce qu'au Vatican, vous mettez 30 ans pour accéder et 10 minutes pour redescendre. Donc, vous voyez, ils ne veulent pas se suicider sur place et donner une interview qui risquerait d'être prise, mal reprise. Si vous voyez, par exemple, dans le livre, il y a le cardinal américain Francis George. Dans un pays où le lobby est très important, le cardinal George, qui est le premier cardinal américain, il représente un lobby de 23% des gens aux États-Unis, parce qu'il y a 23% de catholiques avec les communautés polonaises, latino-américaines, irlandaises, lituaniennes, etc. Donc, c'est quelqu'un qui donne très, très peu d'interviews et qui a régulièrement au téléphone le président Obama. Donc, si vous voulez, il ne peut pas se permettre de recevoir et de prendre le risque d'avoir en face de lui une journaliste qui, après ça, traduit ses propos de travers. Ou, vous voyez, c'est un trop gros risque. Mmh. Donc, il est obligé d'être très prudent.
Mmh. Alors, vous, vous êtes employé, vous le dites bien. C'est vous, les entretiens ont été tous en italien ?
Non, les entretiens étaient en italien, en anglais, en espagnol et quatre seulement en français. 16 en langue étrangère.
Oui, oui, oui. Et à chaque fois, vous avez bien respecté le style dans la retranscription de chaque personnage.
Alors, la difficulté, bon, j'ai traduit moi-même parce qu'il n'était évidemment pas question après ça de donner ça à un organisme de traduction. C'est un travail complètement artisanal et personnel. Oui. Parce qu'en plus, à chaque interview en langue étrangère ou en français, c'était pareil, je prenais des notes autour de la feuille. J'avais trois magnétos de peur qu'il y en ait un qui me lâche. Et puis, évidemment, j'écrivais toutes les choses importantes qui me frappaient. Et je mettais sur le bord des feuilles les attitudes. Tout à coup, je voyais qu'il levait les yeux au ciel. Tout à coup, parce que je me disais, ça me servira pour les portraits. Donc ça, ça a été évidemment un élément très important. Après ça, il a fallu traduire les interviews, ça encore c'est rien, mais une fois que vous avez traduit, vous êtes à résultat zéro, parce que comme ce sont des gens extrêmement intelligents, une grande vivacité d'esprit, ils vous parlent d'un sujet, ils reviennent à un autre, ils repartent, vous voyez, c'est pas une conversation gigogne, c'est-à-dire oui, que ça oui, part un sûr, peu dans oui. tous les sens, donc après ça, il faut reconstruire l'interview. Une fois que vous avez reconstruit, vous êtes toujours à résultat, pas zéro, mais juste un peu plus loin que zéro, et après ça, il faut, ce qui est la grande difficulté, l'écrire en traduisant exactement leurs propos et leur façon de parler, leur nature. Parce que le cardinal d'Afrique du Sud ne parle pas comme le cardinal indien, qui lui-même ne parle pas comme le cardinal chinois. Donc, ce n'est pas Caroline Pigozzi qui parle. Moi, il faut complètement que je m'oublie. L'auteur, l'intervieweuse, l'écrivain s'oublie derrière le cardinal. Il faut à chaque fois reprendre leur ton et leur sonorité. Donc ça, ça a été une grande difficulté. En réalité, j'ai réécrit le livre trois fois.
Ah, effectivement.
Trois fois, et j'ai cru que j'arriverais jamais au bout. Et d'ailleurs, il a été réimprimé déjà trois fois. Et la première fois, j'ai pas eu le temps de relire les épreuves. Une troisième fois, il est sorti avec 24 erreurs. J'en étais malade. Alors maintenant, ça va mieux parce qu'elles ont été corrigées. Mais comprenez, j'étais tellement inquiète et je voulais tellement traduire leurs pensées, leurs paroles, leurs mots, que j'ai cru que j'arriverais jamais au bout. C'était épouvantable. Je me réveillais la nuit en me disant, mais le cardinal chinois, quand il m'a dit cette phrase, en fait, quand on écrit un livre, on vit avec son personnage. Ouais. Mais quand on a 20 personnages, ça ne vous quitte jamais. Ouais. J'étais au volant de ma voiture, j'avais mes fiches et je prenais des notes partout, tout le temps. Donc, ça a été une espèce de relation totalement obsessionnelle avec ces cardinaux, enfin avec ma feuille de papier pendant 2 ans, jour et nuit.
Impressionnant. Je reçois Caroline Pigozzi, auteure de l'ouvrage Les Robes Rouges, paru en coédition chez Desclée de Brouwer et aux éditions Plomb. Nous nous retrouvons dans un instant.
Canal Académie dresse pour vous le portrait d'un peintre de renom, Elisabeth Vigée-Lebrun, portraitiste officielle de la reine Marie-Antoinette. Partie en Italie au moment de la Révolution, elle parcourt Turin, Parme, Rome et Naples avant de voyager dans toute l'Europe pendant plusieurs années. Elisabeth Vigée-Lebrun, souvenir d'une grande dame de la peinture, une émission en compagnie de Geneviève Haroche-Bouzinac, à télécharger dès maintenant sur canalacademy.com.
Nous entamons la deuxième partie de cette émission consacrée aux cardinaux de l'Église catholique. Je reçois Caroline Pigozzi, grand reporter à Paris Match et auteur du livre « Les robes rouges » paru aux éditions Plomb et Desclée de Brouwer. Vous avez, Caroline Pigozzi, décrit votre méthode. Venons-en au sujet lui-même. Comment devient-on cardinal aujourd'hui dans l'Église catholique ?
Mais je crois que, si vous voulez, il ne suffit pas. On a une image qui est un peu l'image d'Épinal, qui est l'image d'autrefois du jeune prêtre ambitieux qui, en étant le secrétaire d'un cardinal influent, en étant à Rome, en étant très respectueux, comme ça, très en cour, réussit à devenir cardinal. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout ça. D'abord, il faut voir que les cardinaux, en général, ils sont à Bac plus 12 ou à Bac plus 10. Ça n'existe pas pratiquement.
Tous polyglottes.
Ils parlent tous 6 ou 7 langues et ceux qui en parlent 2 ou 3 sont extrêmement malheureux. Ils ont l'impression que, vous voyez, d'être les brebis lâchées dans le troupeau parce que c'est très très rare. Ils parlent beaucoup de langues, évidemment. Et ils ont fait énormément d'études et ce sont des gens aussi qui ont eu une mission pastorale pendant de longues années. Vous voyez, sont pas, même s'ils sont intellectuels, parce qu'il y en a un certain nombre, ce sont souvent de grands intellectuels, ils ont aussi beaucoup, généralement fait beaucoup de terrain. C'est pas juste, vous comprenez, d'avoir été dans des instances dirigeantes de l'Église, quel que soit le niveau, ça a été faire du terrain, faire. Ils ont commencé par être des petits prêtres, des petits curés. Enfin, vous voyez, il y a une. Voilà, ils ont gravi tous les échelons plus ou moins vite, mais on n'arrive pas, c'est très compliqué d'arriver là. C'est le club le plus fermé du monde, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Maintenant, ils sont 112 cardinaux votants sur le nombre de pays qui existent sur Terre. Vous voyez un peu la proportion quand même.
Oui, c'est un pourcentage de réussite très faible. Il y a une caractéristique de ces cardinaux aujourd'hui, et on mettra en opposition ce qui se passait les siècles précédents, c'est cette internationalisation, et vous le présentez dans votre ouvrage, Jean-Paul II jouait sur cette internationalisation. Ce sont des personnages qui viennent du monde entier aujourd'hui.
Ce sont des personnages qui viennent du monde entier. Jean-Paul II, c'est quand même, en fait, Paul VI qui a le plus ouvert. Enfin, déjà, sous Jean XXIII, il y avait des cardinaux de nombreux pays. Ce qu'a fait Jean-Paul II, c'est qu'il était très politique. Donc, il jouait un peu un pays qui, enfin, pour assurer vraiment le gouvernement central à Rome. C'était un pape autoritaire, comme ça, souriant, chaleureux, mais autoritaire. C'était l'intendant suivant. Il ne s'intéressait pas aux petites choses, mais aux grandes. Et il jouait souvent un pays contre un autre. Enfin, ouais. Il connaissait les vieilles méthodes de diviser pour régner. Notamment.
Alors, il y a une image aussi du cardinal, et c'est l'image de la pompe, ce qu'on appelle la pompe, là, des personnages un peu mondains. Or, ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui.
Écoutez, si vous voyez un cardinal auquel je pense, notamment qui, quand il vient à Place Saint-Pierre, est au volant et a les bonnes sœurs dans sa voiture et fait le chauffeur de ses bonnes sœurs, qui sont d'ailleurs des bonnes sœurs au père, parce qu'elles travaillent pour lui tiers-temps, ouais. C'est plus du tout l'image. Ce n'est pas le cardinal en carrosse, vous voyez, ce n'est pas du tout ça. Ni avec les flambelles, c'est-à-dire les majordomes avec des flambeaux pour recevoir les cardinaux, comme on faisait autrefois dans les palais romains. Vous voyez, c'est plus du tout ça.
Ça ressort dans chacune de vos interviews, ce sont des personnages qui vivent assez simplement, avec très très peu d'argent. Il y a peut-être le dernier, celui que vous appelez le philosophe du Vatican, Roberto Tucci, qui parle de quelques milliers d'euros de mensuels, mais sinon...
Non, mais quelques milliers d'euros qu'il partage, qu'il donne.
Voilà.
Et
exactement.
Qu'il avait, lui, c'est parce qu'il était haut fonctionnaire du Vatican.
Voilà, oui.
Et je veux dire, c'était plus drôle que ça. Il recevait cette somme d'argent comme haut fonctionnaire et comme il voulait la donner, en fait, la distribuer à des personnes
à des œuvres caritatives,
sans moyens, il ne disait jamais chez les jésuites de Rome, il n'avait jamais osé confesser son salaire à son supérieur jésuite, parce qu'il s'est dit, si je le dis, ça va être pris par l'ordre et moi, je ne pourrais pas faire la charité me semble.
Ouais.
Donc, non, ils ne vivent pas du tout. Ceux qui sont dans le clergé séculier, certes, ne font pas le vœu de pauvreté, mais ils vivent tout à fait modestement. Bon, ce qu'ils ont, ils ont un appartement plus ou moins beau, plus ou moins grand, selon les disponibilités du moment qui leur est mis à disposition par le Vatican. Mais je peux vous dire que moi, j'ai accompagné 5 cardinaux. Je suis partie avec eux pour Moscou. Ils étaient dans un hôtel particulièrement moche. Et moi, j'étais même un peu embarrassée parce qu'à Paris Match, j'ai une vieille image de prestige. On nous met toujours... On habite généralement dans des beaux hôtels, pas les plus flamboyants de la ville, mais enfin, il y a l'image du journal qui est restée ce qu'elle était depuis toujours. Moi, j'étais dans un hôtel bien plus beau que celui des cardinaux que j'accompagnais. J'étais tellement embarrassée, du coup, que je les ai tous invités à dîner dans mon hôtel pour, comme ça, me faire pardonner d'être mieux installée qu'eux.
Oui. Alors, ce sont des personnages qui sont entrés dans le troisième millénaire. Et le troisième millénaire est marqué par la communication. Une question qui revient à l'enseignement, parce que parfois vous utilisez les mêmes questions.
Et oui, c'est-à-dire que j'ai une technique pour ce livre. Il y a des questions communes à tout le monde, un tronc commun, pour que justement le lecteur puisse comparer. Mmh. Et puis, il y a des questions qui sont particulières à chaque cardinal, parce qu'on n'a pas la même problématique qu'on se trouve en Inde, à Hong Kong, à Venise ou en Bosnie-Herzégovine, évidemment.
Donc, alors, un des grands communicants et français, c'est Philippe Barbarin, le cardinal Barbarin.
Oui, le cardinal Barbarin, il a très bien compris où était la communication, que c'était important. Il est un très bon directeur de la communication. Il a été très intelligent tout de suite parce qu'il a pris un très bon directeur de la communication. En plus, il communique facilement. C'est quelqu'un qui a un langage facile, qui regarde les gens droit dans les yeux, qui n'est pas un personnage compliqué dans la tête. Famille nombreuse. Et je crois que c'est un de ses succès, une des clés de son succès, c'est qu'il communique très facilement, qu'il a comme ça une espèce d'approche positive, généreuse, chaleureuse de la vie et est entraînant. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est très important pour les cardinaux d'avoir un physique, c'est-à-dire qu'un petit cardinal maigrichon et très pâle, vous voyez, c'est difficile parce que l'image, les médias, tout ça, c'est très important. Et il faut savoir parler, s'exprimer, convaincre.
Il faut avoir un charisme.
Ah oui, il faut avoir un charisme. C'est peut-être très injuste, mais aujourd'hui, ça me paraît... Enfin, pour occuper un poste de premier plan au sein de la curie, aujourd'hui, il faut avoir un charisme. C'est évident.
Mmh. Alors, ce sont aussi des personnages qui, c'est leur engagement, doivent pouvoir donner leur vie pour l'Église. Et vous avez rencontré des cardinaux qui sont potentiellement la cible soit de terroristes, soit d'une situation nationale qui est plus que critique, que cela soit par exemple en Chine ou bien même en Irak.
Ah oui, alors le patriarche de Bagdad, qui est un personnage bouleversant, particulièrement émouvant, qui a un regard magnifique, qui est comme ça... Ça,
Emmanuel III
d'Élie, qui a une espèce de regard des aviateurs, il a le regard lointain. Et lui, alors, il a une chose, d'abord, il ne vous voit qu'à l'air libre, parce qu'il est méfiant et qu'il est habitué, il ne veut pas être enfermé dans des murs et tout. Et alors, quand je l'interviewais, donc dehors, il se retourne toujours pour voir s'il y a quelqu'un derrière lui, parce que bon, l'Irak, ce n'est pas évident. Et il était très troublé par le silence, parce que lui m'a vu dans les murs du Vatican, mais à l'air libre, et il est complètement désarmé par le silence. Il n'est pas habitué à ça, et au Vatican, finalement, on n'entend que des cloches qui sonnent toutes les heures. Il n'est pas du tout habitué à ça, parce qu'en Irak, entre le bruit des hélicoptères, des bombes, etc., et voilà, donc il était presque troublé par le silence religieux du Vatican.
Alors ça, c'est l'Irak. Il y a également la Chine.
Oui, alors le cardinal chinois, le cardinal Zheng Zekiu, est un personnage magnifique parce que d'abord, il a beaucoup d'humour et il parle italien sans accent. C'est un prêtre salésien au départ. Il a enseigné dans les séminaires en Chine, les séminaires clandestins. Et c'est un personnage qui est d'une rare violence, avec, très sévère avec les Chinois, qui dit des choses terribles. Et d'ailleurs, il est d'une telle dureté envers les Chinois, que maintenant il n'a plus le droit depuis quelque temps de mettre les pieds en Chine, il reste à Hong Kong. Enfin, Hong Kong étant quand même la Chine, mais il ne peut pas aller dans la Chine profonde.
Alors, dans le message de l'Église, ce qui m'a frappé à vous lire, c'était aussi le fait que ce sont des personnages qui sont marqués par la pensée de Jean-Paul II et notamment l'importance du dialogue culturel. Qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'un cardinal entend par l'importance de la culture ?
C'est-à-dire que, comme ce sont des gens éminemment diplomates, très subtils, et vous me parliez au début de cette interview du monde politique, vous comprenez, le monde politique, généralement, aussi subtil soit-il, vous les voyez arriver avec leurs gros sabots. Les cardinaux, ils savent faire diversion avec beaucoup d'intelligence et de finesse. C'est-à-dire qu'ils pensent évidemment que s'ils doivent rencontrer, par exemple, le grand rabbin de Jérusalem, je vous donne un exemple, il est évidemment plus facile d'aborder les questions culturelles et de s'entendre et de rejoindre, commencer par avoir un accord culturel sur l'étude de textes en hébreu ou de choses comme ça. C'est un problème comme ça qui ne fâche pas. Et après ça, chacun venir aux questions qui les préoccupent. Mais si vous voulez, ils n'entrent pas dans le vif du sujet. Ils ne sont pas comme les hommes d'affaires qui, quand ils se rencontrent, se disent bonjour et deux secondes après, entrent dans le vif de leurs affaires et de leurs échanges professionnels. Ils pensent que la culture est un terrain noble, est un terrain, les arts sont un terrain magnifique pour sceller des ententes qui, après ça, généralement, les amènent plus loin pour pouvoir entamer les vrais problèmes de fond, de diversion, la philosophie de l'Église et sur les questions qui les partagent. Mais ils préfèrent commencer par les sujets qui les unissent avant de commencer par ceux qui les divisent.
D'accord. Alors, la culture, justement, nous amène au pouvoir. Alors, il y a deux types de pouvoir. Il y a le pouvoir de ces hommes, le pouvoir réel au sein de l'Église, mais également à l'extérieur. Et c'est assez intéressant de voir. C'est, par exemple, le cardinal Leonardo Sandri qui termine en disant « Notre pouvoir n'est pas politique puisque le Vatican est une puissance morale. » Ainsi, tout dépend de ceux qui nous écoutent. Est-ce qu'on écoute le Vatican ? Est-ce qu'on écoute ces cardinaux ?
Et bien sûr, on les écoute d'abord. Ce sont des hommes les mieux renseignés du monde.
Mais est-ce que c'est pas...
Vous allez dire, est-ce que c'est pas un mythe ?
Oui, est-ce que ce n'est pas un mythe ? Parce que, je vais citer mes sources, l'historien américain David Alvarez a écrit un ouvrage qui montrait justement que là, finalement, le souci de ces personnages, c'est avant tout la pastorale. Et donc, il ne faut pas confondre l'influence politique et, enfin, derrière chaque prêtre ne se cache pas un homme de renseignement.
Non, mais c'est pas ça. C'est que, si vous voulez, c'est pas derrière chaque prêtre... Je ne cache pas un homme de renseignement, comme on dit au Vatican, comme me dit toujours un cardinal africain qui est très drôle. Il me dit, vous êtes journaliste à Paris Image, vous devez être hautement informé. Alors, eux sont hautement informés, beaucoup plus que moi d'ailleurs. Et parce qu'il y a deux choses. D'une part, quand on va voir un cardinal, généralement, quand on va voir un homme d'église, on ment moins. On ne ment pas, en théorie, et en tout cas, beaucoup moins. Donc, on a tendance à leur raconter beaucoup plus la vérité. Et ensuite, ils ont un esprit d'analyse et on va à l'essentiel, vous voyez, si vous allez voir un homme d'église, vous ne lui racontez pas n'importe quelle information, vous lui racontez des informations importantes. Donc je crois qu'ils ont de meilleures informations et que la sélection est plus intelligente. Qu'est-ce qui se passe avec les services secrets américains? On l'a vu il y a encore quelques jours. Ils ont des masses et des masses et des milliers d'informations. Il faut les analyser et les traiter, les informations. Et évidemment, arrive au Vatican moins d'informations, plus spontanément, plus c'est mieux sélectionné. Parce que si vous-même, vous avez une demi-heure à passer avec un cardinal, vous allez aller à l'essentiel. Donc, on leur raconte des choses. Vous avez beaucoup réfléchi à ce que vous allez leur dire. Vous dites, c'est un privilège, je vais voir tel cardinal. Et puis, vous ne mentez pas. Donc, si vous voulez, la qualité des informations est bien meilleure. Et moi, j'ai une expérience personnelle de longues années. Quand j'ai des sujets à traiter à Paris Match, comme maintenant, j'ai un, si je puis m'exprimer ainsi, un maillage de cardinaux avec qui j'ai de bonnes relations, parce qu'on ne passe pas 16 ans à travailler avec eux. Sans... Donc, je les appelle. Ce sont des gens qui n'aiment pas tellement parler au téléphone. Je leur dis, écoutez, j'ai un sujet que je dois faire pour Match sur telle et telle chose. Je suis un peu perdue. Est-ce que, éventuellement, vous me donneriez quelques conseils ? Ils me donnent un rendez-vous téléphonique. Après ça, on se parle en langage codé, parce que je connais bien leur langage. Et je peux vous assurer qu'en 16 ans de relation avec le Vatican, quel que soit le sujet, que ce soit sur l'élection du président américain, l'élection du président français, jamais, j'aimerais bien de temps en temps, je ne les ai pas pris en erreur. C'est le côté assez fascinant. C'est aussi ce qui fait que j'aime écrire des livres sur eux. C'est qu'ils sont... Ils analysent mieux, ils ne s'embarquent pas dans des mauvaises théories. Le résultat est là, ils sont beaucoup mieux informés. Ce n'est pas une légende, c'est une réalité. D'ailleurs, comme ils le disent, si ça fait 20 siècles qu'ils sont là, s'ils ont traversé les siècles, les guerres, c'est que quand même, ils ont certaines qualités qui sont, à mon avis, vraiment là.
Alors, le cardinal Poupart fait une distinction entre le pouvoir et l'influence. C'est, d'après vous, un pouvoir
ou... Écoutez, ça dépend, parce que quand vous pensez au cardinal George, qui est le premier cardinal américain, comme je vous le disais, qui représente un lobby de 23% des Américains, moi, je vous dirais, le cardinal George a un réel pouvoir. C'est-à-dire, c'est pas pour rien que le président des États-Unis, qui est lui-même, vient lui-même de Chicago, enfin sa femme en tout cas, le cardinal George étant cardinal archevêque de Chicago, un réel pouvoir. Le cardinal Oscar Andrés Maradiaga, qui a eu comme élève le président Zelaya et tous les problèmes qu'on connaît au Honduras, est un homme qui a un réel pouvoir. Quand il s'exprime en Honduras, on l'écoute, c'est un personnage. Alors, je dirais que ça dépend des cardinaux, ça dépend des pays. Le cardinal archevêque de Budapest, Peter Erdo, à mon avis, un réel pouvoir. D'ailleurs, quand il est venu à Paris il y a 2-3 mois, président Sarkozy l'a reçu. Ça dépend des cas, mais je dirais qu'ils ont un pouvoir diffus, ils ont un pouvoir direct ou indirect, mais ils ont du pouvoir. Ils ont du pouvoir de par le monde et ils ont de l'influence au Vatican.
Caroline Pigozzi, nous nous retrouvons dans un instant.
Il se situe à côté de Bordeaux, le château de la Brède est le lieu où vécut Montesquieu. Retrouvez avec Olivia Battistello La magie d'un lieu d'exception, ainsi que la vie du philosophe et académicien dans l'émission La demeure de Montesquieu. Sans plus attendre, canalacademy.com vous ouvre les portes de la philosophie.
Nous entamons la dernière partie de cette émission consacrée aux cardinaux et je reçois Caroline Pigozzi, grand reporter à Paris Match et auteur du livre « Les robes rouges », une coédition des clés de Brouwer, Plomb. Nous avons vu à la fois les tenants de votre enquête, Caroline Pigozzi, nous avons vu également quelle était la mesure du pouvoir de ces hommes. Je voudrais m'arrêter un peu sur les liens avec le pape et puis finalement parler du pape lui-même puisque vous l'avez approché. Il y a, je le disais en début d'émission, il y a 185 cardinaux. On se doute, et vous, c'est une question qui revient à chaque fois, vous parlez de complicité ou bien de compétition. Vous demandez à chacun des cardinaux s'il existe entre une complicité ou une compétition. Et là, bien évidemment, il faut lire entre les lignes.
C'est-à-dire que la complicité, d'abord, il y en a qui détesteraient devenir pape. Il y en a pour qui devenir pape serait un drame absolu. Ils en mourraient sur le siège apostolique, comme Molière est mort sur la Seine. Il y en a, et comme d'ailleurs, moi, la conviction que Jean-Paul Ier est mort parce que la tâche était trop lourde. Je sais que maintenant, il y a des polars qui racontent qu'il a été assassiné. Moi, je n'y crois pas du tout. J'ai fait une enquête personnelle parce que ça m'intéressait, d'après la conclusion de ma petite enquête, je crois que la tâche était vraiment trop lourde pour lui. Il y a des papes, il y a des cardinaux qui détesteraient ça. Il y en a d'autres qui, au contraire, dans leur logique, aimeraient atteindre au poste suprême. Donc, ça dépend vraiment des personnages, vous voyez. Il y en a qui, dans le secret de leur âme, concourent à la papauté, d'autres pas. Donc, l'attitude, l'approche est différente selon les uns et les autres.
Mais alors, entre ces 185 personnages, alors il y a une unité de forme, mais au sein, il y a certains cardinaux qui sont très sociaux sans être socialistes ou qui sont plutôt de gauche, quand d'autres sont de droite.
Vous parlez de complicité. Ah oui. Non, je crois qu'il y a, je dirais plus, une complicité de génération. Générationnel.
Oui.
Si vous voulez, il y a le groupe des cardinaux plus jeunes, le groupe des cardinaux européens, le groupe des... Il y a plus de complicité de génération que de géographie. Je crois que, par exemple, tous les grands cardinaux d'Amérique latine ne sont pas très liés entre eux. Ils se voient au CELAM, qui est la conférence des évêques d'Amérique latine, mais ils ne sont pas proches. Et il y a aussi des ententes. Le cardinal Barbarin, qui est quelqu'un de très ouvert, très chaleureux, très souriant, ça compte aussi, qui est arrivé, il parle très moyennement italien. Il n'était pas tellement dans cet univers-là. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans la solennité et tout ça. Il est arrivé un peu... il faisait... Vous voyez, famille nombreuse, enfin, un peu comme ça, pensionnaire. Il s'est tout de suite fait, beaucoup d'amis, beaucoup, parce que c'est quelqu'un de facile, d'aimable, d'agréable, de courtois. Quand il a des voisins dans des réunions entre cardinaux, il leur parle, il les fait rire. Ça dépend. Il y a des cardinaux qui sont très ombrageux, très silencieux. Vous voyez, c'est vraiment une question de caractère. Le cardinal chinois Zheng Zekun est aussi un homme extrêmement souriant et très aimable. Il est très recherché comme voisin dans des réunions. Union de cardinaux, le cardinal Lustiger, qui est un personnage extraordinaire et assez dominateur, c'est pas moi qui vais vous en parler, étant donné que je suis à l'académie, était quelqu'un d'émouvant, mais comme il était très dominateur, il n'avait pas que des amis, il était sévère, il était très sévère avec ses collègues, alors quand il était dans une réunion qu'il avait des voisins, il se disait, mais qu'est-ce qui va encore me tomber sur la tête, qu'est-ce qu'il va me dire, parce qu'il était très sévère avec lui-même et sévère avec les autres.
Oui, ouais.
Donc, ça dépend, je crois qu'il y a des individualités, c'est le collègue des cardinaux, ils sont 122 cardinaux électeurs, mais c'est 122 personnalités différentes. C'est pas une unité, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas un bloc monolithique.
Pour comprendre cet univers, vous insistez bien sur cette idée, nous y reviendrons à propos du pape Benoît XVI, c'est que ce sont des hommes qui sont dans le temps de l'Église.
Ah oui, alors là, ça n'a pas été mon désespoir pour écrire un livre, mais encore que je courais après le temps pour le rendre le jour dit à l'éditeur, bien qu'ayant signé 2 ans et demi auparavant. Mais quand je fais des papiers sur l'Église, sur le pape, sur les cardinaux, alors que je leur parle d'un bouclage, c'est une chose, on ne parle pas la même langue. Parce qu'ils ont l'éternité devant eux et le bouclage d'un grand journal ou d'un petit journal, c'est une chose... Même le mot leur est déplaisant. Vous voyez, il faut du temps pour réfléchir, il ne faut pas les précipiter. Il faut... Par exemple, il y a un cardinal, le cardinal Angelo Scola, qui est le patriarche de Venise. Il n'est pas très lent, mais il réécrit ses interviews. Quand on lui donne une interview, il la réécrit 4 fois derrière. Donc, vous voyez, le temps, est... voilà, c'est... on n'a pas la même notion.
On va peut-être parler d'une question qui fâche, mais comment expliquez-vous qu'un personnage comme le cardinal Schönborn, qui a souhaité d'abord, qui a accepté cette interview, finalement retire son texte ?
Il n'y a pas de question qui fâche. Je vais vous dire, quand on prend... Au départ, j'avais 26 personnages, j'en ai cerné 26, j'en ai choisi 20. Mmh. Vous voyez, c'est comme quand vous allez au cinéma, quand vous êtes critique de cinéma, vous ne prenez pas tous les films. Bon, et... Après ça, il y en a un qui a dit oui, puis non, puis oui, puis non, puis bon, il a changé d'avis. Je considère que c'est 5% d'échec. Vous voyez, sur 20, ce n'est pas grave, parce qu'il y a beaucoup à lire. Y a, je pense que le lecteur ne reste pas frustré. Il y a toutes les opinions, tous les courants, toutes les tendances sont dans cet ouvrage. Moi, j'étais juste désolée parce que c'est un personnage extrêmement brillant, mais je pense que c'est quelqu'un d'assez méfiant. Bon, il a changé d'avis, je veux dire, c'est la règle du jeu. Si vous voulez, j'ai pris la chose différemment, donc je ne suis pas du tout fâchée. Je suis contente que sur 20, il n'y en ait qu'un qui ait changé d'avis, parce qu'il y a des cardinaux qui m'ont renvoyé la primature signée, enfin la lettre signée, comme quoi on pouvait publier. Il y en a un qui me l'a envoyé 3 jours avant que ça parte à l'imprimerie. J'en ai pas dormi. Et à chaque fois, j'étais là à attendre. Et vous savez, c'est 20, c'est vous multipliez les problèmes par 20, quoi. Donc... Moi, j'étais très contente, finalement.
Alors, venons-en à Benoît XVI. Je cite le cardinal Poupart qui dit, à propos de la pédophilie, qui est une question qui a secoué l'Église, « Je peux vous assurer que lorsqu'éclate maintenant un tel drame, ce pape, contrairement à son prédécesseur qui préférait étouffer ses affaires, fait tout ce qui est en son pouvoir pour y mettre brièvement un terme. » Au-delà de cette question de la pédophilie, on a deux papes qui sont vraiment différents. Est-ce que Jean-Paul II apparaît comme un personnage qui, je ne vais pas dire qu'il ne souhaitait pas voir les problèmes, mais qui souhaitait aller au-delà, tandis que Benoît XVI, quitte à déplaire, comme il l'a montré tout au long de cette année 2009, eh bien, suit droit son chemin. Et au fond, n'est-ce pas son rôle ?
Alors, je crois qu'il y a deux choses. Je crois que le pape Jean-Paul II, il ne faut pas l'oublier, venait de l'Église du silence et pense que donc l'Église de la méfiance aussi, l'Église où on se cachait, hein, en Pologne, c'était pas, on ne pouvait pas, et pensait au fond de son cœur, au fond de son âme, lui qui était un grand mystique aussi, que moins on parlait des choses qui ne marchaient pas, mieux ça valait. Ce n'est pas qu'il fallait les étouffer, mais que ce n'était pas la peine de les mettre en lumière. Ce n'était pas tant pour des questions de popularité que ce n'est pas la peine de soulever des problèmes. Bon, ce pape-là, il a un avantage sur tout le monde, c'est que la popularité, ça lui est complètement égal d'être populaire. C'est pas,
Benoît XVI.
On parle de Benoît XVI, là. Ce n'est pas un problème dans sa vie. Et il y a une autre chose que les gens ne voient pas bien, mais qui est une réalité chez ce pape, c'est qu'il déteste la division. Donc, il déteste, si vous voulez, il déteste que sur un sujet, les gens soient divisés. Les uns pensent une chose, les autres pensent l'autre. Donc, il veut trancher. Parce qu'il ne faut pas oublier ce qu'on oublie toujours, même s'il venait de la partie de l'Allemagne libre, il faisait partie de ces Allemands, il fait partie de ces générations pour qui le mur, ça a été une chose extrêmement douloureuse. Il a vécu dans un pays divisé en deux et il a horreur des divisions. C'est une chose qui lui est physiquement insupportable. Et donc, c'est un sujet qui divise. Et forcément, parce qu'il est toujours la même histoire, on est pour, on est contre, est-ce qu'on en parle, est-ce qu'on n'en parle pas. Et donc, lui, il veut trancher. Il ne peut pas supporter les conflits. C'est vraiment pas... Il veut aller de l'avant. Et moi, je trouve qu'il est... On a beaucoup critiqué ce pape. C'est évidemment pas un pape médiatique, mais c'est quelqu'un d'extrêmement courageux parce qu'il règle des problèmes particulièrement désagréables. Il va de l'avant. Et quand même, il faut le faire parce que c'est pas... très facile, c'est pas très agréable pour un pape de traiter ce genre de sujet, et pour personne d'ailleurs.
Mais est-ce que c'est un pape plus pédagogue que son prédécesseur ? Parce qu'il nous incite, c'est ce que disait Jean-Marie Guénois dans une tribune du Figaro, il dit « ce pape nous oblige à revisiter des positions a priori et souvent trop simplistes ». Est-ce que le monde médiatique, finalement, ne s'inscrit pas dans ce simplisme ?
C'est-à-dire que c'est un pape qui vit en relisant les textes, en les analysant. C'est un professeur, c'est un universitaire qui, sans doute d'ailleurs, d'après les gens qui lui sont proches, est assez frustré. Le jour où il a arrêté d'enseigner, il a été assez frustré. Il aime reprendre les textes, il aime le dialogue à travers l'écriture, il aime... Oui, je crois que il est tout à fait différent. Il aime approfondir, il aime revenir, il aime que le pape Jean-Paul II, qui était à la fois médiatique, mystique, charismatique, enfin c'était deux personnages de nature très très différente. Et ce qui est sûr, c'est que oui, ce pape-là, d'ailleurs, il aime tellement être dans ses textes, les relire, les reprendre, que justement là, il lui manque du temps. Et c'est, je crois, comme ça qu'arrive un certain nombre d'incidents, c'est qu'il garde ses textes en allemand jusqu'à la dernière minute. Après ça, il faut les traduire en italien. Enfin, vous savez. Et puis après ça, bon, du coup, les gens qui sont avec lui n'ont pas le temps de les relire. Et voilà, quand il pourrait y avoir des gaffes qui pourraient être évitées, à la dernière minute, les gens sont le nez sur le guidon et voient ces textes trop tard.
Vous l'avez rencontré ?
Oui, je l'ai rencontré.
Personnellement ?
Oui, bien sûr, j'ai fait un grand sujet sur lui. J'ai mis 2 ans et demi à le faire.
Comment approche-t-on le pape aujourd'hui, Caroline ?
Je m'y suis attelée la semaine où il a été élu pape.
Vous le connaissiez déjà ?
Je connaissais.
Vous connaissez ?
Un petit peu, pas beaucoup. Et... Alain Genestard m'a dit « Le pouvoir, ça se prend tout de suite ». Il était le patron de Paris Match à l'époque. De même qu'un sujet, ça se demande tout de suite. Donc, je n'ai pas attendu une semaine. J'ai tissé ma toile. Ça a été très, très long. J'arrivais à rien. J'étais désespérée. Et j'ai commencé par interviewer le patriarche de Moscou. Et il a fait attention à moi une fois que j'ai... Après ça, le patriarche de Constantinople. Et quand après ça, il a allé voir le patriarche de Constantinople et qu'on lui a préparé une documentation parce qu'il avait rendez-vous avec lui et qu'il avait donné une interview extrêmement intéressante. C'était sans doute la dernière interview qu'il avait donnée. Donc, il a eu toute une série de documents et mon nom est réapparu. Et à ce moment-là, voilà, les portes du Vatican se sont ouvertes parce que, bon, je me renvoyais par la fenêtre, je repassais par la porte. Enfin, bon, ça a été très, très long. Je ne me suis jamais découragée. Et bon, j'y suis arrivée 2 fois, j'étais très contente, mais enfin, ça n'a pas été sans difficulté.
2 fois, c'est-à-dire, là, c'était la première fois par la Russie?
Oui, la première fois, et puis après ça, j'ai fait un second reportage. Oui.
Vous avez pu le revoir cette fois?
Oui, j'ai pu le revoir aussi. Mais bon, et puis si vous voulez, j'ai été quand même aidée du fait que quand il est venu en France, nous avons publié, enfin, j'ai écrit un sujet de 24 pages, et que je crois qu'il en était très heureux, parce que tous les grands journaux catholiques, La Vie et tous ces autres journaux ont écrit beaucoup moins que nous, et ont forcément publié des photos moins belles que les nôtres, parce que moi, j'avais eu la chance... grâce à Madame Alliot-Marie, d'avoir des complicités. On avait un photographe qui était parmi les flics et qui était juste dans une voiture suiveuse et qui ne l'a pas lâché. Donc, on a forcément fait les photos les plus belles, puisque ça, les photos à Paris Match, on sait faire. Le poids des mots, le choc des photos, c'est toujours une réalité.
Quelle trace, d'après vous, va laisser ce pas ? Parce que, encore une fois, on le critique très souvent. Pourtant, il a une œuvre extraordinaire. C'est plus de 30 ou 40 ouvrages qui s'inscrivent et il continue à écrire. Et ceux qui prennent la peine de s'abonner à l'Osservatore Romano, ne serait-ce que l'édition française, voient tous ces textes qui défilent, qui sont des textes extrêmement fouillés.
Je crois qu'il laissera l'image. On ne s'en rend pas compte aujourd'hui, mais il est en train de rendre l'image d'un pape très courageux. Il est en train de régler un certain nombre de problèmes pénibles. Et je pense que son successeur et la curie romaine lui en sera un jour très reconnaissant. Et quand je pense à ça, je pense au problème de Pie XII, je pense au problème de la pédophilie, je pense à des questions qui quand même sont très épineuses et très lourdes, qu'il aurait très bien pu mettre de côté, parce qu'après tout, un pape, il a l'emploi du temps qu'il veut. Et... il gère son temps justement comme il le veut. C'est un des privilèges du Vatican et qui prend les sujets à bras le corps et qui les règle. Et en ça, je pense qu'il est éminemment respectable.
Eh bien, c'est sur ce mot de respectable que nous allons nous quitter. Caroline Pigozzi, merci beaucoup d'être venue jusqu'à nous pour présenter votre ouvrage, Les Robes Rouges, paru en coédition chez Decklenbauer et chez Plon. Donc, Caroline Pigozzi, merci beaucoup. Et à très bientôt pour un nouveau numéro d'éclairage.
Merci.